Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Rien de plus ordinaire que la vie d'une paroisse, des hommes et des femmes qui cherchent à tâtons la présence de Dieu un jour après l'autre. Rien de plus difficile alors que d'en parler dans un média, quand ces derniers cherchent souvent l'extraordinaire. Mais parce que nous aimons les défis à Radio Présence, cette deuxième émission du trimestre en direct depuis un diocèse de notre région, celui de Toulouse, une deuxième émission cette fois depuis l'ensemble paroissial de Carbonne-Cazère, une communauté chrétienne mi-ville, mi-campagne, ouverte, généreuse et accueillante, une paroisse du Sud-Ouest comme on les aime. En direct du diocèse de Toulouse, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Deuxième émission donc du trimestre. On délocalise les studios une fois par trimestre pour aller à la rencontre des pépites de notre région, de la vie chrétienne de notre région. Et donc là, on va mettre un coup de focus. On va voyager jusqu'à la paroisse de Carbonne-Cazère, la mission mi-ville, mi-campagne. Autour du plateau, Jean-Marie Harry, qui est prêtre et curé de l'ensemble paroissial de Carbonne-Cazère. Cécile Philippé, qui est laïque, responsable de l'aumônerie des jeunes, et Jérôme Devic, laïque membre de l'EAP, et coordinateur local du projet Terre d'Espérance. Et j'allais vous oublier, Laurence Fichot, vous êtes laïque et vous êtes notre témoin du jour. On se balade donc dans la région. Alors on va certainement pas assez en paroisse, rien de plus difficile. Je commencerai peut-être par ça, c'est souvent le retour que me font les prêtres Jean-Marie Harry. Les médias, ils aiment bien parler de ce qui est extraordinaire. Il n'y a rien de plus ordinaire dans le fond que la vie d'une paroisse.
Il n'y a rien de plus ordinaire, mais on peut le vivre de manière extraordinaire si on s'y implique fortement. Donc la paroisse, c'est quand même quelque chose...
C'est-à-dire
Eh bien, ça dépend comment on le vit. On peut arriver dans le quotidien à donner quand même beaucoup de sens, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et c'est ça l'extraordinaire. On peut faire de grandes choses sans amour, c'est extraordinaire, mais est-ce que ça va... Vous connaissez la lettre de Saint Paul, j'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, s'il me manque la charité, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. Donc le quotidien, on peut le vivre de manière extraordinaire si on s'y implique vraiment.
C'est beau, belle entrée en matière. Alors on va faire connaissance donc avec votre ensemble paroissial. Alors vous n'êtes pas être le seul à parler parce que on va le découvrir au long de cette émission. Pour vous, c'est important de mener cette aventure à plusieurs. Déjà, on va commencer par la géographie. Donc on est à quoi ? Une demi-heure, 40 minutes au sud de Toulouse ?
S'il n'y a pas de bouchon, c'est une demi-heure de Toulouse.
D'accord. Décrivez-nous le paysage. Imaginez qu'on se balade un petit peu en hélicoptère.
Alors, si on se balade en hélicoptère, on peut faire comme la gendarmerie, déjà suivre l'autoroute qui va de Noé jusqu'à Boussens. La ligne de chemin de fer longe aussi et ça traverse l'ensemble de notre territoire. Donc cet axe routier et chemin de fer, c'est un petit peu le centre de notre ensemble paroissial où il y a deux pôles. Cazère, qui est une ville...
5 000 habitants à peu près.
Oui, 5 000. Et Carbonne, 6 000 habitants.
Et au-dessus, autour, c'est des villages.
C'est des villages. C'est rural. Du côté de Carbonne, il y a pas mal de communes de 2 500 habitants quand même. Hein.
Voilà. Est-ce que c'est un pays, ça a une logique de pays ou en fait, où vous faites avec quelque chose un peu de composé?
Alors, une logique de pays, moi, je pense que...
Comme quand on est dans le commun, je veux dire. Alors là, ici, oui. On n'est pas dans le commun, mais...
Alors, on est une partie commun et une partie volvestre.
D'accord.
Et ce que je noterais en particulier, c'est que ce sont des gens qui sont pour beaucoup issus du territoire. Donc, c'est quand même des gens qui sont enracinés avec tout ce que cela veut dire au niveau la culture et les coutumes.
Alors, on dit que donc, c'est un peu mi-ville, mi-campagne. C'est-à-dire qu'on a une demi-heure de Toulouse. Donc, il y a des gens qui travaillent à Toulouse.
Beaucoup.
Ceux-là, ils habitent surtout à Carbonne et à Cazère, c'est ça ?
Ah oui, il y en a aussi qui habitent à Boussens, partout. Parce qu'il y a, je crois qu'on est desservi par 6 ou 7 gares. Donc, c'est vrai que et les parkings devant les gares sont remplis tous les matins. Beaucoup de gens utilisent ce moyen de transport pour se rendre à Toulouse. Alors, il y a aussi d'autres moyens de locomotion, mais je pense que le train est une chance pour le secteur.
Ça vous fait combien de clochers? Alors vous, c'est l'ensemble paroissial, on y reviendra, hein, mais oui. Ça fait combien de clochers tout ça?
57 communes, 57 clochers.
57 clochers. Il n'y a pas des petites, il y a pas parfois deux clochers par commune, des petits sanctuaires qui se baladent ou des petites chapelles?
En plus, c'est des petites chapelles, mais pas beaucoup. Il y a, nous, dans notre secteur, on a surtout un lieu de pèlerinage qui est Notre-Dame de Montaut. Mais il faut savoir où c'est pour y aller.
Ah oui, j'en ai jamais entendu parler.
Ah mais il faut découvrir le rural. On ne peut pas, on ne peut le connaître que si on y met les pieds.
Alors, quand on s'est téléphoné un petit peu pour préparer l'émission, la première chose que vous me disiez, déjà, c'est que c'est grand. C'est-à-dire nord-sud-est-ouest, en fait, on voilà. met du temps pour le faire même en voiture.
Voilà, ça prend beaucoup de temps pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Et donc, ça a des répercussions sur la passe Soural.
Beaucoup de temps, c'est que d'ailleurs, c'est combien de temps c'est...
Ben, si je suis, par exemple, à Noé et que je dois être à Martre, il faut compter presque une demi-heure.
Ça, c'est nord-sud, ça ou c'est...
Voilà, là, c'est nord-sud, oui.
D'accord. Est-ouest ?
Alors, est-ouest, ben, si on est à Saint-Sulpice-sur-Lèze et qu'on doit aller à Saint-Arail, déjà, il n'y a pas l'autoroute. Et là, on peut mettre trois quarts d'heure.
Et puis les autres invités, alors on sait, c'est pas, quand on n'a pas de vidéo, mais ils me font signe qu'il y a aussi des collines. Et c'est vrai.
Voilà.
Alors c'est beau aussi, non? Alors
ça, quand même, c'est magnifique.
Vous êtes gonflé, vous m'avez rien dit. Et alors en fait, vous.
Ah non, mais c'est très beau.
Vous le dites pas parce que vous voulez pas que les gens viennent habiter ici, c'est ça?
Ben plus il y aura de monde, plus on aura de travail. Mais non, c'est pas ça. C'est une blague. Non, je pense que c'est une très belle région et je. Ce que je souligne, c'est surtout la quiétude des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soucis, pas de problèmes, comme partout. Mais c'est quand même plus paisible. Il y a moins d'incivilité qu'en ville. J'étais en ville auparavant. Et là, vraiment, j'apprécie beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui vous frappe, justement, quand vous êtes arrivé ici, dans cet ensemble paroissial, les deux, trois choses qui vous ont frappé au regard d'autres expériences pastorales, c'est
ben, ce que je viens de vous dire à l'instant, déjà. Hein, les relations humaines, enfin, c'est plus posé, plus paisible. J'ai l'impression que les gens ont un peu plus de temps, ça ne veut pas dire qu'ils fassent rien.
On sent le rythme mais, qui
voilà,
qui,
le rythme n'est pas le même.
Ici, ouais.
La deuxième chose, c'est que au niveau de la paroisse, il y a beaucoup de gens qui s'investissent. Parce que le fait de l'étendue du territoire, ça demande plus de présence. Et bon, pour donner un exemple, par exemple, au niveau des funérailles, ils sont plus d'une quinzaine de personnes.
Ah oui, quand même, oui.
Oui, c'est pour vous dire. Enfin, on pourrait développer tous les exemples. Ça, c'est la deuxième chose qui marque. Et puis la troisième, c'est qu'on arrive à avoir des projets, à proposer des choses, et les gens répondent. Par exemple, malgré la distance, on essaye de proposer de temps en temps des temps forts dans notre secteur. On a fait des fêtes, fêtes de la création. Eh bien, les gens répondent assez bien.
Ils font de la voiture s'il faut.
Oui, oui. Ils sont habitués à faire de la voiture parce que dans les communes, pour aller chez le médecin, pour aller faire les courses, on fait de la voiture tout le temps ici.
Donc on va dire une paroisse généreuse. Alors on peut dire aussi dès le début parce que ça vous y tenez beaucoup, c'est que c'est pas Jean-Marie Harry donc qui gère ça.
Non.
Voilà, même si vous êtes je crois plusieurs prêtres hein sur il y a deux prêtres alors, et deux prêtres un diacre.
Non.
Non. Vous voyez mes fiches sont mauvaises.
Deux prêtres plus un qui habite le secteur, qui est retraité et qui nous donne un sacré coup de main,
ouais.
Le père Jean Duclos, il y a le père Laurent Ngourou.
Oui, donc ça fait trois avec vous, c'est ça?
Et il y a deux diacres.
Deux diacres.
Il y a Emmanuel Gembert et Philippe Osina.
Alors,
il est à savoir que les diacres ont aussi des missions au niveau du diocèse.
D'accord. Ouais. En tout cas, pour vous, c'est important donc que ça soit une aventure collective. Vous avez donc une EAP, vous pouvez rappeler ce que c'est.
Oui.
Et puis une EAP, on va dire, sacrément étoffée.
Une équipe d'animation paroissiale de 16 membres cette année. Et ce qui me paraît important dans cette équipe, c'est qu'il y ait des gens un peu répartis sur l'ensemble des paroisses, du mieux possible. Et puis, il y a aussi des réalités humaines différentes.
Alors, pourquoi est-ce qu'une EAP de 17 personnes, c'est si important à préciser que ça? Vous me disiez qu'aujourd'hui, toutes les paroisses n'ont pas d'EAP ou...
ben, je ne sais pas si... Il y a peut-être quelques paroisses qui n'en ont pas. Mais moi, cette EAP-là, cette année, elle a presque doublé par rapport à l'an dernier. Puisqu'on avait nous avions 4 personnes à remplacer, on avait fait 8 appels et 8 ont répondu. Donc.
Mais ma question, c'était pourquoi est-ce que c'est si important de le souligner?
Parce que chacun a la parole et on voit qu'il y a un dynamisme très fort, beaucoup de projets, des choses auxquelles moi j'aurais pas pensé ou si j'étais seul ou simplement l'équipe de prêtres, on pourrait pas les mettre en œuvre. Et souvent, quand les gens proposent quelque chose, ils le prennent aussi en charge et vous en aurez un exemple tout à l'heure.
Ouais. Alors on va veiller à donner la parole hein, aux autres, Cécile Philippet et entre autres et aussi vous, Jérôme Devic, puisqu'on mettra un coup de focus sur donc sur l'aumônerie des jeunes et puis donc sur le projet Terre d'Espérance. Terre d'Espérance, c'est donc un projet national dans le monde rural et ici on travaille à ces déclinaisons locales. Peut-être si on continue à faire connaissance avec la paroisse que vous représentez quand même en partie, Jean-Marie Harry. Donc il y a plein de choses, vous me dites, beaucoup de choses se passent. La première, peut-être à préciser, c'est que, à dire très généreusement, vous essayez de continuer à faire vivre la vie de presque tous les clochers. Vous m'avez dit qu'il y a 7 messes le dimanche, c'est ça ? Ouais, et alors, après, en plus, des messes tournantes dans les villages.
Ouais, alors, faire vivre tous les clochers, non. On tient quand même à ce qu'il y ait minimum une célébration par an pour la fête du village. Il peut y en avoir d'autres, pour d'autres occasions, mais là, c'est...
Donc ça fait plus d'une fête de village presque par semaine, alors. Ah, mais 57 clochers.
57 clochers, ça veut dire 57 fêtes.
Ah oui.
Ça, c'est clair.
Donc vous aimez manger, c'est...
Ah non, non, on ne fait pas tous les repas, quand même. Mais par contre, il y a des célébrations à l'occasion de toutes les fêtes. Voilà, ça, c'est important. Moi, j'y tiens d'autant plus que les municipalités font tout ce qu'elles peuvent pour quand même entretenir les églises. Et je trouve que c'est normal de pouvoir y célébrer.
Mais alors, cette messe le dimanche, je me dis, mais le pauvre Jean-Marie Harry, il va faire un bain-lente, là.
C'est... Non, mais nous sommes trois.
Oui. Hein,
voilà. Alors, c'est le week-end, d'abord, c'est pas le dimanche. Il y a deux messes le samedi soir. Et une à Martre-Tolosane ou à Boussens. Et une à Noé ou Longage. Oui, comme ça, ça permet d'honorer tous les 15 jours une commune. Et puis, le dimanche matin, on a Montesquieu-Volvestre ou Rieux-Volvestre. Du coup, je vous dis les noms. Le Fousseret, et puis Carbonne et Caser. Et le soir, à Saint-Élix-le-Château, qui est central, il y a une messe pour voilà, tous ceux qui le désirent.
Donc, on va découvrir la pastorale. Hein. Vous m'avez dit donc pastorale des jeunes, catéchèse, éveil à la foi, préparation au sacrement, pastorale de la santé, deuil important. On m'a dit que c'est 300 à 400 enterrements par an. Vous me disiez, si on devait souligner deux choses avant de voir un peu la pastorale des jeunes et donc la pastorale du monde rural, que ici, vous prépariez au baptême et au mariage, mais vous les célébriez aussi. Alors, pourquoi vous avez noté ça ?
Bien parce que j'étais prêtre en ville et si je préparais. Si on préparait une vingtaine de mariages, on en célébrait deux ou trois.
Pourquoi ?
Et parce qu'ils allaient se marier à la campagne, à Carbonne-Cazères ou ailleurs. Voilà. Tandis qu'ici, on prépare quelques mariages pour l'extérieur, mais on en accueille dans les mariages que nous célébrons. La moitié, on les prépare sur place, la moitié, on les accueille d'ailleurs.
Vous êtes un prêtre heureux ici ?
Ah, très heureux.
Et pourquoi ?
Ben d'abord parce que je désirais découvrir un peu la pastorale en milieu rural que je n'avais jamais pratiquée. Et puis j'ai été bien accueilli, il y a des gens formidables, je vous l'ai dit tout à l'heure, très dévoués, et je crois qu'on peut être qu'heureux ici.
Allez, on va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités qui ont été très sages, Cécile Philippet, Jérôme Devic et puis un peu plus tard Laurence Fichot qui sera notre témoin du jour. On fait une courte pause musicale et on vous retrouve.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
En direct du diocèse de Toulouse, coup de zoom sur la paroisse de Carbonne-Caser, la mission mi-ville, mi-campagne. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient et pour être tout à fait, pour tout vous dévoiler. Donc une fois par trimestre, on délocalise les studios de Radio Présence. Pour une fois, c'est moi qui vais sur le terrain à la rencontre des chrétiens. Et ce trimestre, c'était donc le diocèse de Toulouse. On a eu une belle rencontre donc avec une aumônière d'hôpital. C'était, je crois, il y a deux semaines, aumônière d'hôpital à Saint-Gaudens. Et aujourd'hui, donc, on est à Carbonne-Caser, donc à 40 minutes, on va dire, au sud de Toulouse, pour découvrir cette paroisse Bigou, si je puis dire, ville et campagne. Avec nous autour du plateau, Jean-Marie Harry, qui est prêtre curé de l'ensemble paroissial de Carbonne-Caser, Cécile Philippet, laïque responsable de l'aumônerie des jeunes, et Jérôme Devic, membre de l'EAP, coordinateur du projet local Terre d'Espérance, et Laurence Fichot, laïque et notre témoin du jour. Alors, on aurait pu parler de bien des choses, mais il fallait choisir et on a choisi donc de parler des jeunes et du monde agricole. Alors on va commencer avec vous, Cécile Philippet, honneur aux dames. Vous vous donnez du mal, hein, Jean-Marie Harry a l'air d'être très fier de ce que vous faites. Comment vous nous présenteriez un petit peu l'aumônerie des jeunes ici?
L'aumônerie des jeunes, elle est constituée de jeunes qui ont entre 10 et 18 ans, qui viennent de 5 collèges, donc Noé, Le Fousseret, Caser, Montesquieu et Carbone. Donc il y a une vraie distance.
Répartie un peu partout sur le territoire.
Donc avec un manque de mobilité pour venir à nos rencontres, qui ont lieu soit à Carbone, soit à Caser. Et donc ils ont vraiment besoin, ces jeunes, d'adultes pour les amener chez nous, puisque il n'y a pas de transport en commun pour venir à nos rencontres.
C'est une contrainte.
C'est une contrainte de liberté, puisque on est tributaire, enfin le jeune est tributaire de l'emploi du temps de sa famille ou pour venir à la messe ou à nos rencontres.
Alors juste avant de ça, si on doit présenter en fait le bassin des jeunes, c'est donc 5 collèges. Il y a des lycées aussi ou...
5 collèges. Alors jusqu'en septembre 2020, nous n'avions pas de collège, mais on a l'opportunité...
Pas de lycée, pardon.
Et on a un lycée qui a été créé et qui a ouvert en septembre 2020 sur le secteur de Caser, qui sera une vraie opportunité d'évangélisation, je pense, pour notre secteur paroissial.
Lycée public, donc c'est ça?
Un lycée public... polyvalent, qui accueille ses premières secondes.
Donc des jeunes de 10 à 18 ans, 10 ans c'est donc CM2, hein, donc ça fait quand même un spectre large. Vous me dites que vous êtes une bonne équipe, vous allez la présenter. Quand vous m'avez parlé donc de la pastorale des jeunes ici, vous m'avez dit le plus important c'est de former des jeunes libres. Pourquoi ?
Former des jeunes libres parce que la liberté, ça va faire qu'en conscience, ils pourront agir pour le bien de l'humanité et pour leur bien à eux. Donc on a un projet qui se vit sur 5 essentiels pour ça, où l'objectif c'est d'en rencontrer un ami. Chacun d'entre nous est ami de l'autre, mais à travers ça, on essaie qu'ils rencontrent Jésus, en fait. Donc les 5 essentiels, c'est la fraternité, le service, le partage, la prière et l'enseignement. Et donc pour ça, on a des rencontres sur Carbone ou sur Caser, mais on part aussi en week-end pour faire de vraies coupures.
Vous diriez que c'est pas facile pour ces jeunes d'être libres aujourd'hui, justement? Qu'est-ce qui vous frappe un peu dans cette jeunesse que vous accompagnez?
Je pense que cette jeunesse, la difficulté du transport est un frein clair à la liberté en ruralité. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de sujets qui ne sont pas forcément abordés dans l'enceinte scolaire ou associative.
Par exemple.
Et la liberté de parole, elle est vraie chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, une fois qui est arrivée, elle était en sixième, elle arrivait en séance, elle m'a dit, Cécile, tu sais, moi, je suis là, maman, elle me met, mais je crois pas en Dieu. Ben, c'est pas grave, viens, écoute, nourris-toi de ce que tu vas recevoir, et si tu ne crois pas en Dieu, notre travail ce sera de communiquer avec ta maman pour dire elle n'est pas prête, il faut qu'elle attende un petit peu. Et je pense que tous ces jeunes, ils ont besoin d'entendre qu'ils ont une liberté de penser, en fait, de travailler la liberté de penser. Je pense que c'est un vrai enjeu pour ces jeunes.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet dont on peut parler, en fait, dans le cadre d'une aumônerie, et dont on ne peut pas parler ailleurs quand on est au collège, parfois pas avec ses copains, voire même avec ses parents?
Les lois de la laïcité ont fait que ces jeunes, il y a tout un tas de sujets dont ils ne peuvent pas parler avec les adultes qu'ils encadrent. Et ici, ils peuvent parler de tout, en fait, de politique, de Jésus, de vie affective. Et le sujet de la vie affective est un sujet qu'on va traiter dans les prochains mois, parce que c'est un sujet extrêmement important de le développer dans une intégralité et pas que sous un aspect mécanique.
Racontez-nous un peu ce que vous vivez ensemble. Vous m'avez dit aussi, le but du jeu, c'est de grandir ensemble. Ce que j'ai entendu derrière ça, c'est qu'en fait, et c'est assez original, il s'agit et pour ceux qui les accompagnent et pour les jeunes de grandir, c'est ça?
Tout à fait. Je pense qu'en fait, on peut pas nourrir des jeunes si nous-mêmes ne sommes pas nourris. On peut pas vivre la fraternité si nous-mêmes on la vit pas. Et du coup, l'équipe d'animation où il y a 8 animateurs et un séminariste, on vit des vrais temps de fraternité pour préparer nos rencontres, donc forcément le soir puisque tous les animateurs travaillent, et on vit des temps de fraternité, donc de repas, d'enseignement et puis de préparation des séances pour les jeunes.
Donc vous vivez tout le week-end, parce que la semaine c'est trop compliqué, ça c'est une vraie contrainte.
Les activités auprès des jeunes, elles sont exclusivement le week-end, parce que le dernier bus, il arrive le vendredi à 18h45, donc on ne peut plus faire de rencontres. Donc elles sont proposées systématiquement le samedi ou le dimanche.
Alors vous êtes pris quoi du coup, un week-end sur deux?
On est pris un week-end sur deux pendant les périodes scolaires, plus quelques camps. Donc il y a un camp ski dans les vacances d'hiver et un mini-camp l'été.
Ah, donc vous êtes sacrément dévoué, parce qu'on imagine qu'en plus ça vous demande quoi, au moins un ou deux soirs par semaine pour préparer tout ça?
Pour les animateurs, je pense que ça prend, quand il y a un temps fort, quand il y a un week-end, ça prend plus que... Ouais, ça prend au moins 3 heures par semaine. Entre les réunions puis les temps de préparation personnelle, ça prend du temps.
Ah oui, donc c'est quand même une sacrée aventure. Alors prenez-nous, une rencontre récente qui vous a marqué, qui vous a fait chaud au cœur, une fois où ça s'est bien passé, vous êtes dit, tiens, là, vraiment, on est bien ensemble.
Je vais prendre la rencontre de cet hiver pour préparer Noël. Notre temps fort de l'Avent, d'habitude on part en week-end, donc là à cause du Covid on n'a pas pu le faire, mais la ruralité nous a permis de s'excentrer justement à l'extérieur, donc on est parti sur une paroisse,
peu importe la paroisse,
et on a cheminé vers un sanctuaire, donc et ces jeunes, donc ils ont marché dans la nature, ça leur a fait avec un texte à méditer, et main dans la main l'un avec l'autre, ils étaient hyper heureux et extrêmement reconnaissants dans cette période de Covid qu'on a vécu, de voir que on prenait du temps pour eux et qu'on a fait ce temps de prière dès qu'on a pu les revoir physiquement, donc c'était juste après le deuxième confinement, en fait.
Si vous deviez prendre un ou deux exemples tirés de votre expérience, alors vous en avez pris un d'une certaine manière, hein, mais des fruits que porte cette pastorale, et côté animateur, et côté jeune, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter comme belle histoire?
Alors, une histoire avec de la tristesse, mais aussi de la joie, côté jeune. Il y a un jeune qui a vécu son baptême il y a 2 ans, il me semble. Et 6 mois après ce baptême, il a perdu son papa. Donc la famille, spontanément, elle est venue vers nous pour préparer les obsèques. Mais ça se fait pas comme ça. C'est l'équipe des funérailles qui prend en charge cette dimension-là. Mais main dans la main avec l'équipe des funérailles, on a accompagné cette famille en deuil dans les obsèques, en étant vigilant à ce que l'ensemble de la famille soit représentée. C'est-à-dire que ce jeune, il était croyant, mais ses frères n'étaient pas. Et donc, ils devaient tous pouvoir dire au revoir à ce papa avec un souvenir joli qui reste gravé dans leur mémoire. Donc, on a accompagné cette famille, on a écouté. Et puis, on a invité les jeunes à venir à cette célébration d'en revoir. Et donc les musiciens sont venus. Et il y a un très beau souvenir, une très belle image qui est gravée, c'est-à-dire que il y a les musiciens d'un côté du cercueil, il y a les chanteurs, les jeunes musiciens,
c'est les jeunes musiciens, c'est l'aumônerie, oui.
Tout à fait. Et les jeunes chanteurs de l'autre côté qui ont chanté à la fin de la célébration avec les bougies au-dessus du cercueil, regarde l'étoile. C'était très émouvant pour nous et très touchant pour la famille.
Ça, c'est l'exemple, enfin, très beau, mais un peu, enfin, qui concerne un jeune, on va dire, plutôt. Et côté animateur, vous aviez
côté
une
animateur,
histoire,
tout à fait. On a un animateur dont l'épouse s'est convertie il y a 5-6 ans, hein. Donc elle a été baptisée il y a 5-6 ans et qui a intégré l'aumônerie à la même période, à peu près. Et l'année dernière, ils ont choisi de se marier religieusement. Donc, en fait, ce mariage religieux, bon, ils l'ont préparé et ils l'ont vécu dans le début de l'année pastorale. Donc, en fait, ça a été notre première rencontre, finalement, de l'année de l'aumônerie où ils ont célébré devant la communauté des jeunes et la communauté paroissiale ce mariage devant Dieu.
La première rencontre, il y avait tous les jeunes de l'aumônerie au mariage, c'est ça ?
Tout à fait.
Et en plus, c'est eux qui animaient, c'est
et
ça ?
Et en plus, c'est donc le groupe Plein Pré qui, donc ils ont un nom, c'est un groupe de pop louange maintenant. Hein. Et donc, c'est eux qui ont animé ce mariage, comme d'autres célébrations d'ailleurs.
On sent que vous êtes aussi, vous êtes content d'être là. Alors, c'est votre première émission, donc on vous entend pas rigoler peut-être autant que d'habitude, mais mon petit doigt me dit que c'est pas triste, ces rencontres. Le temps passe. Jérôme De Vic, on va, alors, la parole ne circule pas beaucoup, mais on reviendra en d'autres circonstances et la deuxième fois, les micros tourneront à satiété. Donc, vous êtes membre de l'EAP, c'est important de préciser. Vous faites partie donc de ces 17 personnes qui essayent d'accompagner le projet pastoral de l'ensemble de paroissial de Carbonne-Cazère. On a dit au début de l'émission que c'était important, et pour Jean-Marie Harry et pour la communauté. Vous êtes agriculteur. Si on doit vous présenter un petit peu, donc 43 ans, agriculteur, si vous deviez en dire un petit peu plus, vous êtes quelqu'un du pays, c'est ça ?
Oui, je suis né dans le village où j'habite, ou à côté. Donc je suis agriculteur sur la commune de Gensac-sur-Garonne, où j'élève un troupeau de vaches laitières, où on transforme le lait qu'elles produisent en fromage, en tombe fraîche, et ainsi que le lait cru que l'on vend au détail sur le marché. Tout ça un petit peu à la suite de la grosse crise du lait qu'on a eue il y a une douzaine d'années de cela. Si je m'en souviens bien, c'était en 2009, où je venais tout récemment de m'installer, et quand soudain le prix du lait a fait une grande chute vers le bas, où on se rémunérait plus. Donc on a pris la décision avec mes associés de diviser le troupeau par quatre et de transformer et de vendre la production en direct.
Le monde agricole, c'est encore un monde pratiquant ou c'est où vos confrères agriculteurs, ils viennent plus trop à la messe, il faut aller les chercher, il faut les convaincre que Dieu existe.
C'est difficile, oui. Ils sont plus trop pratiquants, ils sont catholiques, mais pratiquants, non. Ils sont sensibles. Ils sont souvent sensibles à ce qu'on peut échanger. Mais de là à dire ou qu'ils viennent nous rejoindre ou pour constituer des groupes ou aller un peu plus loin, c'est moins évident.
C'est un sacré défi. Alors juste Jean-Marie Harry, est-ce que vous pourriez dire un mot là-dessus ? C'est vrai que monde rural, on se dit tout de suite, le monde rural, c'est encore un monde chrétien. Ça doit tenir la baraque et ils doivent aller encore avoir une pratique. Non, on a des idées reçues ?
Oui, je crois qu'on a des idées reçues. Moi, je ne le pense pas comme ça. Mais je sais que ça fait partie de notre projet pastoral, c'est de pouvoir permettre à chacun sur ce territoire de se retrouver, de libérer sa parole et de faire le lien peut-être aussi avec l'évangile pour peut-être petit à petit retrouver un chemin de foi. Et je pense qu'avec Jérôme, on souhaiterait que ceux qui travaillent la terre, hein, parce que Laudato aussi, c'est quand même quelque chose qui a marqué notre Église mondial mais aussi local. Je crois que dans cet esprit-là, donc, on aimerait pouvoir libérer la parole des agriculteurs qui puissent échanger entre eux et à la lumière peut-être de l'évangile aussi pour aller un peu plus loin. Donc, on espère. Voilà.
Alors c'est ce qu'on va voir, on va parler entre autres donc du projet Terre d'Espérance. Donc l'église s'est mise en route parce que donc c'est une grande préoccupation des évêques en France qui a décidé de rejoindre davantage le monde rural, tout comme sur votre paroisse. Donc il y a un projet qui est lancé qui s'appelle Terre d'Espérance, qui consiste donc en des journées diocésaines et puis après il va y avoir 3 jours de rencontres nationales. La journée diocésaine, ça sera le 24 avril, donc pour le diocèse de Toulouse. Et puis en avril 2022, ça sera 3 jours de rencontre nationale. Si vous deviez nous parler de cette prochaine rencontre, Terre d'Espérance, vous êtes un peu le coordinateur local. Qu'est-ce qu'on va y vivre et quel est le but un peu de...
L'esprit et l'enjeu de ce rassemblement, c'est de signifier aux ruraux et au grand public l'attention de l'Église pour ce monde rural. Avec une conviction, dans les questionnements actuels des ruraux, donc les ruraux sont porteurs d'espérance pour demain. Donc on va être un peu à la quête de recherche de nouveaux chemins pour porter la joie de l'Évangile.
Qu'est-ce qu'on va y vivre pendant cette journée ? Je sais pas, il va y avoir des enchaînements de temps de prière peut-être ou de conférences ou de présentations. Qu'est-ce que vous allez proposer ?
Oui, donc la journée va se dérouler de la manière suivante, si vous voulez. J'espère qu'on va arriver à tous se connecter parce qu'il est prévu qu'on soit connecté en visio nationalement avec donc des temps communs avec les différents diocèses au niveau français.
Alors donnez-nous dans les grandes
lignes.
Donc
si vous voulez, je vais vous donner les grandes lignes donc du déroulement de cette journée.
Voilà, ne donnez pas le détail, mais les grandes
donc,
lignes.
Donc la journée va se dérouler de 9h30 à 17h. Donc le matin, donc 10h-11h, c'est une introduction par Monseigneur Hubert, évêque référent pour la mission rurale, suivi de trois témoignages. Donc ça va être un temps commun. Ensuite, de 11h à midi, on aura un temps de partage autour de la parole de Dieu. On prendra un repas...
Des temps de prière, des temps de présentation, des temps de partage. Jean-Marie Harry, qu'est-ce que vous pourriez rajouter peut-être pour compléter sur ce qu'on va essayer d'y vivre ? J'avais compris que c'était une journée diocésaine, mais en fait c'est une journée diocésaine en lien avec les autres diocèses, c'est ça ?
Voilà, ben c'est national. Donc au niveau de notre diocèse, bon, ça va être sur notre secteur parce qu'on a vécu une journée le 14 février pour nous y préparer déjà. Donc le 14 février, on a parlé de Laudato aussi le matin, en début de rencontre, je veux dire. Et ensuite, il y a eu 3 témoignages du rural. Un agriculteur, Cécile qui est autour de la table pour la pastorale, et quelqu'un qui fait la coordination d'un service d'infirmière et d'aide à domicile au niveau des personnes en milieu rural. Quelque chose qui a marqué profondément. Et dans l'après-midi de ce temps, on voudrait vivre aussi un petit peu des expériences partagées comme ça, où chacun pourrait réagir et voir un petit peu les enjeux du rural, les difficultés et les défis à relever. C'est un petit peu l'objectif. C'est aussi pour préparer demain et la pastorale en rural demain.
Alors Jérôme Devic, dernière question, c'est pareil comme pour Cécile Philippet, quel fruit ça porte des rencontres ? Donc il y en a une en février, on a compris, chaque année vous essayez de faire une rencontre de fin d'année, entre autres avec les personnes du monde agricole. Jean-Marie Harry avait parlé d'une fête, ça s'appelle la fête de la Création aussi. Ça finit par prendre, qu'est-ce qu'ils vous en disent ceux qui sont loin de l'église ? C'est quoi ? Ça les fait réfléchir ? Ça les éclaire ?
Ben ça porte au questionnement, hein. Ça les éclaire sur peut-être les idées reçues qu'ils pouvaient avoir sur nous, sur notre pratique, notre foi. Et
vous sentez qu'ils font du chemin ? Vous auriez un exemple comme ça qui vous revient en tête ? Un agriculteur,
oui,
quelqu'un proche ?
Oui, je peux prendre l'exemple d'un collègue agriculteur qui, à la suite de ça, s'est posé... multiples questions quant à sa façon de produire, par exemple, et en lien avec la création. Quoi.
Oui, et ça a donné quoi, au final ? Il a changé de pratique ?
On ne change pas de pratique comme ça, mais donc il est sur le chemin pour changer un peu et réorganiser toutes ses pratiques sur l'exploitation.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va retrouver Laurence Fichot, donc notre témoin du jour. Elle va nous raconter le chemin de foi qu'elle a fait, une recommençante, une convertie même, elle dit, convertie par Sainte Thérèse de Lisieux.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
En direct du diocèse de Toulouse, paroisse de Carbonne-Cazères, la mission mi-ville, mi-campagne, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce mardi matin autour du plateau. Pour ceux qui nous rejoindraient, Jean-Marie Harry, qui est prêtre et curé de l'ensemble paroissial de Carbonne-Cazères, Cécile Philippet, laïque responsable de l'aumônerie des jeunes, Jérôme Devic, qui est laïque et également est membre de l'EAP et coordinateur. Donc l'EAP, c'est donc là, on va dire, l'organe de coordination de la vie de la paroisse et coordinateur d'un projet dont on a parlé juste avant cette deuxième pause musicale. Coordinateur local, projet Terre d'Espérance, et Laurence Fichot, donc laïque et témoin. Alors Laurence Fichot, merci de votre discrétion et de votre patience. Donc vous avez accepté un petit peu de nous expliquer votre chemin de foi, que vous avez fait en partie avec la paroisse de Carbonne-Cazères. On peut dire donc que vous avez 55 ans, vous habitez à Carbonne depuis 2019. Si on doit commencer par le début, il fut un temps où vous avez été loin de la grande famille des croyants. Vous êtes né donc dans une famille catholique pratiquante, mais vous avez décroché de la pratique. C'était environ vers quel âge et pourquoi ?
Donc, effectivement, ma famille est catholique, pratiquante, et j'en ai décroché à l'adolescence, parce que, bon, j'avais pas forcément les mêmes idées qu'eux, et puis j'étais un peu en rébellion. Donc, du coup, j'ai pas pratiqué pendant beaucoup d'années. On peut parler en termes de décennies. Suis revenue en 2014.
Voilà, et c'est-à-dire que quand vous étiez enfant, il fut un temps où Dieu était quelqu'un pour vous. Mais après, ça a disparu ou en fait, ça a été longtemps le grand inconnu ?
Oui, c'était plutôt le grand inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, je suivais le mouvement, comme on dit, pour aller à la messe le dimanche, avec ma grand-mère essentiellement, jusqu'au moment où j'ai dit non et que j'y allais plus, quoi. C'était à peu près à la période 13-14 ans, le temps de faire donc ma communion. Et puis après, bon, j'ai arrêté là et on ne m'a pas demandé de suivre pour autant.
Donc il y a eu une longue parenthèse avant une conversion, alors qui n'a pas commencé tout de suite avec la paroisse de Carbonne-Cazères. Vous dites vous-même donc que vous avez une vie assez bouleversée, assez agitée et qui n'avait pas de sens. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'en fait, suite à des études dans le commerce, bon, et une carrière commerciale également, j'étais plus un petit peu dans le côté, on va dire, paillette, et puis bon, le chiffre d'affaires, etc. En fait, j'avais pas forcément de notion de divin ou autre dans ma vie, hormis travailler, m'amuser, sortir. Voilà, donc aucune place pour Dieu dans ce chemin de vie jusqu'à mes 49 ans.
Et c'est-à-dire que quand vous dites que la vie n'avait pas de sens, c'est-à-dire que vous ne posiez pas la question du sens de la vie ou de fait vous étiez quelqu'un qui trouvait que la vie n'avait pas de sens ?
C'est-à-dire, oui, c'était surtout le côté pas forcément de sens. Tout le monde joue un petit rôle dans la vie, chacun comme une espèce de pièce de théâtre, quoi. Donc, voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il veut et maître de sa vie, y compris donc du coup de sa mort aussi d'ailleurs, si on va par là. Donc il n'y avait pas forcément un sens particulier. Voilà, on avançait, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, et je ne cherchais pas plus que ça en fait.
Alors, vous cherchiez pas plus que ça, et pourtant, donc vous êtes tombé, alors probablement par hasard, je sais pas, donc sur un livre qui est un best-seller, un immense best-seller dans le monde, donc Histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. J'ai souvenir que c'est un livre qui a été vendu, je crois, à près de 500 millions d'exemplaires à travers le monde, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs de quelques émissions sont bonnes. Vous, c'est arrivé en 2014, et là, c'est la conversion, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, et puis vraiment radicalement, violemment, j'allais dire, doucement mais violemment en même temps. Et voilà, en fait, une de mes tantes m'avait offert ce livre, bon, sachant que je lisais beaucoup, mais pas de livres religieux. Puis un jour, je l'ai pris comme ça, bon, voilà, et puis je me suis dit, par curiosité, on va voir. Et ça a été un bouleversement total. C'est-à-dire que je ne l'ai pas lu par petits bouts. Ça a été le livre d'une nuit, en fait. Je l'ai commencé un soir et je l'ai fini sur le matin. Et ça m'a... J'étais complètement transformée j'allais dire au niveau de ma réflexion, à la fin de ce livre. Après, bien sûr, la transformation, c'est Jésus, parce que après j'ai voulu découvrir quel était son bien-aimé et mon chemin a commencé comme ça, en fait. Et c'était en juin 2014.
Donc vous avez commencé par rencontrer Thérèse de Lisieux et après vous êtes mis en route vers la question de savoir si Dieu existait, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire, je crois que cette question-là, elle est devenue évidente cette nuit-là, de cette lecture. J'ai le souvenir de régulièrement, au fur et à mesure des lectures, dire « mais c'est ça », comme une espèce de réca. Sachant qu'après, justement, il fallait quand même que je cherche un petit peu à savoir plus. Donc, pour le coup, après Thérèse, j'ai commencé à lire les évangiles directement, c'est-à-dire, sans passer par en parler à quelqu'un ou autre. J'ai pris directement, j'avais des évangiles que je lisais pas, bien sûr, mais voilà, que j'avais, et du coup, j'ai lu les évangiles dans la foulée, on va dire.
Alors, donc vous avez commencé à cheminer, on va dire, dans votre coin, et puis vous avez fini par pousser donc les portes de la paroisse de Carbonne-Cazères. Au début, c'était pas vraiment à Carbonne. Racontez-nous un peu les débuts de cette rencontre avec la communauté chrétienne de l'ensemble paroissial de Carbonne-Cazères. Quelle était votre première impression ?
Franchement très bonne, parce que je m'attendais pas, pour moi, les cathos, enfin jeunes, j'allais dire, pour moi ils étaient tous illuminés, cathos ou autres, hein, autre confession, hein, c'est juste que pour moi c'était pas possible. Et là j'ai trouvé un accueil, une chaleur humaine, j'étais très étonnée, je m'attendais pas. Et du coup j'ai rencontré une religieuse qui est sur Carbonne, une sœur de Saint-Joseph, qui m'a accueillie vraiment très chaleureusement, et au fur et à mesure, parce que j'ai eu un besoin d'aller à la messe tous les dimanches, et au fur et à mesure j'ai rencontré des paroissiens avec qui, pour certains, on est devenus amis, et ça a été un chemin quand même très agréable, parce qu'il y a vraiment un accueil. Après, là, je parle de la communauté que je connais, la paroisse que je connais sur Carbonne, sachant qu'au départ, j'étais à Noé, pas très loin, mais j'ai essentiellement commencé mon chemin sur Carbonne.
Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, Laurence Fichot, en fait, de rejoindre une communauté chrétienne ? Maintenant, c'est quand, si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça a changé dans votre chemin de foi, pour commencer ?
Alors, ça a changé qu'en fait, je me rends compte que c'est la communauté est importante, parce qu'il faut qu'on fasse église et pas rester un peu dans son coin avec ses lectures. Moi, c'était mon cas, du reste. Voilà, je pense que ça m'apporte une stabilité. Ça m'apporte également le fait de... quand on a des coups de mou, comme on dit, ou des coups de blues, on sait qu'on a toujours, on n'est pas seul, quoi. On a toujours quelqu'un à qui qu'on peut appeler, ou même si on n'a pas forcément envie, mais on sait qu'on peut appeler certaines personnes, et vice versa. D'ailleurs, on se soutient. Il y a une solidarité, une fraternité que je connaissais pas, en fait. Et ça m'apporte beaucoup sur mon chemin de foi, parce qu'en fait, ça reflète. Pour moi, c'est vraiment un parallèle avec l'évangile, quoi, d'être en communauté, les actes des apôtres, c'est ça, quoi. C'est dans les débuts de l'Église, c'était vraiment des communautés, on était tous frères, et on l'est toujours, du reste. Donc c'est quand même important de pouvoir être ensemble, et aussi de prier, en cœur à cœur, seul avec le Seigneur, chez soi, par exemple, ou dans sa chambre, comme il est précisé dans une parabole, mais quand même, la communauté est vraiment essentielle, quoi.
Alors justement, j'aimerais qu'on finisse sur la prière, parce qu'au sein de la paroisse de Carbonne-Cazères, après, donc, vous avez donc trouvé une forme d'accompagnement spirituel avec cette religieuse. Vous avez fait un chemin donc vers la profession de foi, même si vous êtes rendu compte que vous l'aviez en fait déjà faite étant jeune, et puis d'autres engagements. Mais vous dites aussi que ça vous a permis de passer d'une période exaltée à une forme d'atterrissage, et que le cœur en a été la prière. C'est-à-dire que via cette communauté paroissiale aussi, en fait, cette communauté chrétienne, tout simplement, vous avez aussi découvert la prière ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est justement très important de pouvoir prier entre frères, avec les frères, parce que ça porte, ça aide. L'union de prière, je trouve que c'est très important. Enfin, moi, je l'ai découvert, et c'est vrai que ça m'aide. Et quand c'est très, très sec, très aride, je sais que si j'en parle, on me dit souvent on va prier pour toi. Ou voilà, donc je trouve que c'est très important de pouvoir être en communauté, pardon, pour prier et pour être porté en fait.
Eh ben merci beaucoup Laurence Fichot. Voilà, j'ai souvenir du pape Jean-Paul II qui disait qu'il fallait que les paroisses redeviennent des écoles de prière. Peut-être qu'on en aura fait la preuve par l'exemple ce matin. Merci à Jean-Marie Harry, Cécile Philippet et Jérôme Devic. Un grand merci à vous tous de nous avoir accueillis ici à la paroisse de Carbonne-Cazères. Voilà, un beau pays. Merci beaucoup à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.